franceinter.fr.
Permis de penser, bonjour à toutes et à tous. Avons-nous réalisé à quel point ils nous ressemblent? Avons-nous compris à quel point ils peuvent incarner notre avenir? Avons-nous pris conscience qu'ils ont fait preuve d'une énergie extraordinaire pour quitter leur pays, qu'ils ont décidé de fuir en raison de la guerre et ou de la misère? Savons-nous vraiment les accueillir? Au moment où en Europe, les mesures sécuritaires et la militarisation des frontières ne cessent de se multiplier, donnant l'image d'une horde d'étrangers venus nous prendre notre boulot ou être potentiellement infiltrés par des réseaux terroristes, au moment où en France le provisoire s'éternise et où dans la jungle de Calais vivent des personnes qui voudraient travailler et ont plein de projets, nous avons décidé, dans Permis de penser, de donner la parole à ceux qu'on appelle des réfugiés, des migrants, c'est selon. Nous avons choisi des étudiants. Elle s'appelle Ninar Omran, il s'appelle Ekram Kaderi. Et ils ont été accueillis, notamment par Frédéric Salin, qui est avec nous aujourd'hui, à l'École normale supérieure, pour nous expliquer d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, et comment en France ils sont accueillis, et comment ils ont décidé, par le savoir, de pouvoir, éventuellement, volontairement, s'intégrer. Nous allons commencer par écouter le pape. Vous vous en souvenez, c'était le 16 avril dernier, c'était à Lesbos.
Je comprends les gouvernements et aussi les peuples qui ont peur. Nous devons faire preuve d'une grande responsabilité en accueillant ces personnes. Et l'Europe doit mettre en place des politiques d'accueil, d'intégration, de croissance et de travail.
J'espère que votre geste affecte la vie politique, qu'elle sera positive pour tous les réfugiés syriens. On est des êtres humains, comme vous. On a juste fui des guerres. On veut juste une vie normale.
France Inter. Permis de penser. Laure Adler.
Ninar Omran, vous êtes actuellement étudiante invitée de l'École nationale supérieure, l'ENS. Vous êtes d'origine syrienne. Quand êtes-vous arrivée en France? Comment et pourquoi êtes-vous partie de votre pays?
Je suis venue en France il y a 4 ans. J'ai demandé le visa de l'ambassade française. Je l'ai eu et je suis venue ici. Après, en Syrie, j'étais arrêtée par la sécurité syrienne, le président Bachar al-Assad. Comme je suis à la 8, de religion à la 8, comme le président, c'était difficile pour moi de rester, pour moi et pour ma famille, de rester en Syrie parce que c'est dangereux de la famille, c'est dangereux pour moi, c'est dangereux parce que quand tu es à la 8, tu peux pas être contre le régime syrien. Pour le régime, c'est pour dire que c'est juste les terroristes qui sont contre le régime. Et c'est évidemment, c'est pas vrai. Alors je suis venue ici en France. Et j'ai fait aller-retour en Turquie plusieurs fois parce que je travaille avec les enfants réfugiés. Et ici, à Paris, maintenant, je fais le même travail avec les enfants réfugiés syriens, irakiens, sudaniens.
Quel trajet, quel itinéraire avez-vous pris pour pouvoir arriver en France et comment y avez-vous été accueilli?
C'était difficile de quitter le pays, en fait.
Et c'est toujours difficile de quitter son pays.
C'est toujours difficile. Et pour moi, j'ai jamais parlé français. Ma deuxième langue, c'était l'anglais. Alors, au début, c'est la langue, c'était difficile. Mais j'ai trouvé des cours gratuits ici à Paris pour apprendre le français. J'ai appris le français. C'était pas difficile. En 2011, 2012, c'était pas comme maintenant. C'était facile. Les gens sont plus ouverts pour accueillir les réfugiés.
Oui, vous êtes arrivé parmi les premiers, donc vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile,
plus difficile.
Y compris cette dame qu'on vient d'entendre qui a été accueillie par le pape et que l'afflux de ces personnes venues de Syrie ne favorise pas forcément la qualité de l'accueil que vous avez pu avoir.
Oui, c'est difficile maintenant. C'est après les attentats, après les nombres de réfugiés qui sont arrivés en Europe. Je comprends pourquoi c'est difficile. Mais c'est difficile, c'est aussi difficile.
Comment et par qui avez-vous été reçu en France? A-t-on fait preuve d'hospitalité envers vous? Comment vous êtes débrouillé quand vous êtes arrivé dans le territoire français?
En fait, j'ai la famille ici. J'ai ma tante ici, j'ai des cousins. Alors, c'était facile pour moi. Mais c'est difficile d'apprendre les papiers. Ça prend toujours beaucoup de temps. Mais après avoir les papiers, c'était plus facile, c'était plus... comme j'ai appris la langue, j'ai pu travailler, j'ai pu étudier, c'était facile au début, c'était facile, vraiment.
Alors on va revenir sur ce qui se passe en ce moment même à Normalsup, à Paris. Comment avez-vous ressenti et perçu l'accueil des réfugiés avant et après les attentats du 13 novembre?
Avant, c'était normal, c'était facile. Les réfugiés, ils ont trouvé les gens gentils, les gens sympas pour accueillir les réfugiés. Après, c'était plus difficile. C'est pas parce que les gens ne sont pas gentils, ils sont toujours gentils, mais c'est pour la peur. C'est à cause de la peur, je crois que c'est ça. Je comprends parce que nous, en Syrie, on a accueilli les réfugiés irakiens. C'était difficile pour nous et pour eux aussi. Alors je comprends bien c'est difficile, mais j'espère que ça sera plus, les gens seront plus ouverts avec les réfugiés, parce que je suis réfugiée, je comprends bien que pas tous les réfugiés sont terroristes. Les terroristes, c'est pas, ça vient pas avec les réfugiés, c'est pas toujours comme ça.
Ça veut dire quoi être réfugié?
Oh, c'est difficile d'être réfugié, c'est d'avoir pas une maison, une famille, des amis, c'est d'avoir pas un pays, c'est difficile. Je sais pas comment c'est expliqué, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile d'être réfugié.
Ekram Kaderi, vous êtes vous aussi étudiant invité à Normalsup en ce moment même. Vous venez d'Afghanistan. Depuis quand avez-vous quitté votre pays et pour quelles raisons et comment êtes-vous arrivé jusqu'en France?
Bonjour, oui. Je suis arrivé en France en septembre 2013. Et du coup, oui, je suis à l'UNES et je suis de cours histoire, géopolitique, tout ça. Alors, comme vous savez très bien, je ne sais pas, vous êtes au courant, l'Afghanistan était toujours dans la guerre. Et du coup, moi, je viens du nord d'Afghanistan, il y a une ville, ça s'appelle Kunduz, qui, même en ce moment, il y a la guerre, du coup, il y a les talibans. Du coup, J'ai perdu mon père et du coup, j'ai plus de nouvelles de ma famille non plus. Ça fait presque un an et demi. Et du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai quitté l'Afghanistan. Et voilà, je suis en France aujourd'hui.
Et comment êtes-vous arrivé en France?
Alors, j'ai quitté l'Afghanistan avec mon petit frère, qui est avec moi, plus petit que moi. Du coup, je fais...
Quel âge il avait quand vous êtes partis tous les deux?
Il avait 13 ans, je pense, ouais. Et puis, nous, on est rentrés en Iran. On était en Iran et puis on est rentré en Turquie. On était en Turquie tous les deux. Enfin, pas tous les deux, moi j'étais tout seul parce que sur la frontière Iran et Turquie, on a payé des passeurs. Alors du coup, le passeur, on les a séparés dans des voitures différentes. Moi j'ai passé et du coup, depuis là, j'ai pas de nouvelles de tout de mon frère. Et du coup, je ne sais pas est-ce qu'il est toujours vivant ou bien en Turquie, en Iran ou bien dans un autre pays européen. Je ne sais pas du tout de nouvelles. J'ai pas du tout de nouvelles. Et puis moi j'étais en Turquie, à Istanbul. Puis j'ai essayé de réussir de passer à la Grèce en fait, la Grèce. Et puis j'étais à Athènes, presque 3 ans comme ça, oui.
Et comment vous avez survécu alors?
Ah, c'était très compliqué là-bas, à Athènes. Il y avait beaucoup de monde et du coup je connaissais personne là-bas et au début pendant 3 ans et demi j'ai dormi dehors là-bas. Et je vendais des vêtements là-bas, en noir quoi, au marché, pour passer ma vie, pour gagner un peu d'argent, pour pas rester là-bas en fait. Parce que c'était compliqué la vie là-bas. Et du coup, je suis venu à Patras, il y a une des îles en grec. Et j'étais pendant 8 mois là-bas, j'ai réussi de monter dans un camion, et le camion est monté dans le bateau. Moi, je suis venu jusqu'à Nice, j'ai fait 36 heures jusqu'à Nice.
Dans ce camion.
Dans ce camion, sans rien manger, sans boire, tout ça.
Et vous étiez combien dans ce camion?
Dans ce camion, on était trois, en fait. On s'est caché dans le journaux. Et du coup, on est arrivé à Nice. À Nice, on est sorti et on a marché un peu Nice et c'était beau. Et puis, on a trouvé les stations demandant des gens. On ne parlait pas l'italien et ou bien il y a un de nos amis qui parlait juste quelques mots anglais. Et alors, on a parlé avec des gens et puis on a trouvé la station de train. Et on a pris le train jusqu'à Rome. On était à Rome pendant quelques temps et puis là-bas aussi c'était difficile de vivre quoi. Je voyais des gens qui avaient des papiers alors qu'ils dormaient dehors en fait. Ils ne travaillaient pas, ils ne faisaient rien du tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé, quatre personnes, on a décidé de venir en France. On est venu à Milano, on a passé en marchant la frontière France-Italie. 4 heures, on a marché. Et puis on est venu jusqu'à Nice et à Cannes, et puis je suis venu en France, voilà, à Paris.
Et pourquoi vous avez choisi la France? Et est-ce que vous l'avez choisi?
Ah non, c'était... Quand j'ai quitté l'Afghanistan, je ne savais même pas... Est-ce qu'il y a des pays qui existent, en fait, comme, je ne sais pas, l'Europe, l'Afrique, la France, tout ça. Quand j'étais petit, je regardais le ciel, en fait, je pensais que c'est bon, voilà, l'autre côté, c'est bon, la fin du monde, quoi, là, on voyait rien du tout. Parce que je ne savais pas du tout, et du coup, quand j'ai quitté l'Afghanistan, j'ai développé des pays, d'autres pays, comme l'Iran, Turquie, tout ça, j'ai dit non, il y a des pays, quoi, là, ça existe encore, le monde est grand. Et moi, je n'ai pas choisi la France, et oui, je suis venu en France, à Paris, voilà. Ça fait presque 3 ans, quoi.
Et comment avez-vous rencontrer ces étudiants qui, à Normale Sup, vous ont accueilli?
D'abord, je vais les remercier. Il y a une bibliothécaire qui s'appelle Eglantine. Alors, souvent, je vais dans une bibliothèque dans le 19e, à Stalingrad. Et du coup, ça s'appelle RG, bibliothèque RG. Et du coup, j'étais tout le temps là-bas parce que j'écrivais, j'apprenais le français avec des gens, je parlais. J'ai aidé des Afghans. Même j'ai traduit un guide en français derrière. C'est notre langue à la bibliothèque. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Eglantine. J'ai dit que ouais, j'ai envie de faire mes études. Même si je n'ai pas fait, j'ai envie de faire des études, tout ça. C'est elle qui m'a trouvé, en fait, l'ANS, le programme de PEI. Et du coup, elle a fait des contacts. Je suis venu ici. On a passé un entretien avec des étudiants. Et là, du coup, on a réussi de rentrer à l'ANS. C'est grâce à elle, vraiment.
Et maintenant, vous êtes à Normale Sup.
Je suis à Normale Sup, oui.
Ben, on va parler de votre avenir, de notre avenir. On va écouter ce film, la bande-son de ce film que vous avez peut-être vu, qui a été diffusé sur Arte, de Yolande Moreau, Nulle part en France.
Combien avez-vous pris de routes, de sentiers, de chemins pour arriver jusqu'ici? Combien d'heures d'attente, d'espoir tronqué? Il a fallu monter dans des barques, des voitures, des trains, de jour, de nuit. Il a fallu parcourir des milliers de kilomètres, marcher pas à pas, encombré, apeuré, courir parfois. Il a fallu des mois entiers de voyage, car les terres sont longues pour les ombres qui n'ont rien.
Alors Ikram, je vous pose la même question qu'à Ninar. Ça veut dire quoi être un réfugié? Comment vous nommez-vous, vous? Vous n'êtes pas réfugié dans votre tête. Vous êtes exilé, vous êtes...
Oui, je suis exilé. Enfin, comme elle expliquait, ouais. Sans maison, sans famille ou quoi, là. D'être réfugié dans un autre monde et dans un autre pays qu'on ne connaît personne, ouais. Et on inquiète, en fait, notre avenir, tout ça. C'est ça, là, les réfugiés, ouais. Sans avenir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Et oui, c'est vraiment compliqué, en fait.
Avez-vous eu l'impression d'être accueilli ici en France par rapport aux autres pays que vous avez traversés?
Non, en fait. Quand je suis arrivé en France... Je ne connaissais personne et du coup, c'était toujours compliqué. Quand j'étais en Italie, des gens, des Afghans, ils me disaient que ouais, quand tu arrives à Paris, il y a un parc, ça s'appelle Gare de l'Est en fait, la station de Gare de l'Est. Et du coup, on dit que ouais, il y aura des Afghans, tu peux demander, il va t'aider, tout ça. Je suis arrivé à Paris, oui, apparemment, je suis venu dans ce parc. J'ai rencontré des Afghans, il y avait, enfin, on m'a aidé un peu de faire quoi faire, où est-ce que je peux faire une demande d'asile, où est-ce que je peux boire, où est-ce que je peux manger. Voilà quoi, oui.
Et où avez-vous dormi? Parce que quand vous parlez de la gare de l'Est, effectivement, c'est un endroit où, plus pour le moment, mais alors, pendant très longtemps, effectivement, oui. Des exilés dormaient dans des conditions plus que précaires, sous des tentes.
Oui, tout à fait. Alors depuis là, je n'ai pas de tout logement non plus, mais même maintenant. Quand je suis arrivé, il y a un centre réfugié, ça s'appelle La Boulangerie. C'est dans le 18e, à Porte de Quillan encore. Alors du coup, on l'appelait 115 tous les matins à 6h pour réserver une place. Quoi. Et j'étais pendant un an et demi là-bas, je dormais là-bas. On rentrait le soir, on prenait le bus à Jaurès. Alors du coup, le matin, on sortait. Quoi. Mais toute la journée, on marchait dans les rues parce qu'on n'avait rien à faire. Et du coup, j'étais pendant un an et demi là-bas et j'étais presque 6-7 mois dehors. J'ai dormi dehors, après même avant aussi. Et puis là,
dans la rue, donc dans les squares.
Bah, c'est sûr, dans le rond, sur le pont, tout ça. Et là, j'ai 6 mois que je suis hébergé chez un ami, à Drancy. Ouais.
Et comment avez-vous su que cette possibilité d'apprendre le français vous était offerte par des étudiants qui avaient le même âge que vous à Normale Sup?
Oh non, mais le français, je l'ai appris très dur en fait. Je travaillais dur en plus. Et j'étais tout le temps à fond sur le français en fait. Et, je sais pas, j'avais l'impression en fait que c'est, je sais pas, c'est une jolie langue en fait. Et du coup, je travaillais, j'ai très dur et je l'ai appris. Et puis là, je suis à Normale Sup et je suis de corps.
Nous allons écouter le témoignage de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui a vécu une histoire assez semblable à la vôtre, Ekram, qui maintenant est devenu un écrivain très connu et reconnu en France, puisqu'il a même eu le prix Goncourt. Il s'agit, oui, Atik Raimi.
Oui, je le connais.
Voilà.
Alors,
Hiroshima, mon amour.
À la Reine.
Et puis, vraiment, c'est magnifique. Là, oui.
Tu me tues, tu me fais du bien. Marguerite Duras.
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien.
Oui, c'est grâce à ce film que je découvre Marguerite Duras. Alors ensuite, arrivé en France, en 85, je vois partout, dans toutes les librairies, et puis même dans cette librairie toute petite de la ville de Gaillon, où j'étais accueilli dans un centre d'accueil pour les réfugiés politiques. Et là, j'ai acheté ce livre-là, L'Amant. Mon premier livre acheté en France. Et je l'ai d'ailleurs toujours, cet exemplaire. Et regardez ça.
Oh là là. Souligné.
Ah oui, je l'étudie. Mais enfin, pour moi, au début, c'était apprendre le français à travers ce livre. Voilà, la magie de cette écriture.
Alors, nous venons d'entendre le témoignage d'Atik Raimi, c'était au micro de Vincent Jos dans l'émission qu'il faisait qui s'intitulait « La bibliothèque idéale ». Depuis, Atik Raimi est devenu un écrivain reconnu. Il continue son travail d'écrivain, de poésie, de restitution de la langue dont il est issu. Et en même temps, il n'a pas quitté mentalement son pays parce que tous ses livres parlent de son pays.
Oui. Oui, je ne sais pas, oui. C'est vrai qu'il est en France, et je le connais, oui, Atik Raimi, même j'ai déjà lu un de ses livres. Oui, c'est quelqu'un vraiment généreux. Ouais. C'est pour ça, il est en France, mais il pense toujours, tout le temps à notre pays, en fait, à l'Afghanistan.
Vous n'avez aucune possibilité de pouvoir retourner dans votre pays?
Non, je ne peux pas. D'abord, je ne peux pas parce que c'est tout le temps la guerre, et puis j'ai des problèmes là-bas, je ne peux pas retourner à cause de la guerre.
Et comment supportez-vous votre propre solitude?
C'est vrai que c'est difficile, mais je suis obligé en fait de le supporter. Oui, j'essaie de faire des choses bien, comme ça, je pense pas beaucoup en fait de ma solitude. Ouais. J'écris, je lis, je parle avec des gens, je les aide.
Vous aidez les gens?
Oui, je parle un peu français et enfin, je les accompagne en fait quand ils ont des problèmes avec, je sais pas, au Pôle emploi, la cave, bien CAF ou bien chez l'assistance sociale, tout ça, oui. Médecin, oui. je le traduis, je fais la traduction en fait.
Donc depuis que vous êtes arrivé en France, vous passez beaucoup de temps à aider les gens qui sont plus en difficulté que vous.
Depuis que je me suis débrouillé avec le français, oui, je les aide. Et je les aiderai encore.
Et vous aussi, Ninard, vous aidez des gens et vous aidez des enfants.
Oui, j'essaie d'aider les gens, j'essaie d'accueillir les Syriens qui viennent et je travaille avec les enfants réfugiés. Je comprends que l'asile est très difficile à comprendre pour un enfant. Alors, oui, j'essaie de travailler avec eux, j'essaie de jouer avec eux, j'essaie de parler en français et aussi de parler en arabe avec eux, les réfugiés arabes, les réfugiés syriens, de parler en Syrie, les Syries de rêve, parce que pour nous, les Syriens, la Syrie, c'est une chose impossible. Maintenant, on peut pas
retourner. Même dans l'avenir, même si les nouvelles sur le front de l'opposition syrienne sont mauvaises et si on a l'impression...
En fait, pour nous, c'est les deux parties sont mauvaises. Le régime et l'opposition. On a Daesh et l'Al-Qaïda et on a le régime syrien. Les deux sont pires. Alors, pour l'avenir, on sait rien. C'est difficile de retourner dans cette condition et c'est difficile de rester ici sans penser à Syrie, sans penser à la famille là-bas, les amis, les gens qui meurent chaque jour, chaque moment. Les enfants qui sont maintenant sur la frontière fermée en Turquie, en Grèce, en Macédonie, c'est dur de penser à eux.
Nous allons écouter la voix d'Angela Merkel. C'était devant la CDU, c'était le 14 décembre dernier à Karlsruhe.
Notre pays est fort et nous allons y arriver. J'y travaillerai de toutes mes forces et je vous demande votre soutien. Même un grand pays comme l'Allemagne se retrouve au bout d'un certain temps débordé avec autant de réfugiés. En tant que parti chrétien-démocrate, nous sommes le pays du peuple et nous devons entendre l'inquiétude qui s'exprime. Mais nous sommes aussi un parti qui travaille et qui trouve des solutions. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Au XXIe siècle, le repli sur soi n'est pas la solution.
Alors nous venons d'entendre la voix d'Angela Merkel qui a été la première à savoir accueillir les réfugiés. Depuis, les choses ont un peu évolué et la collaboration avec la Turquie et les échanges de réfugiés ont un peu changé la donne et peut-être la perception. Il n'empêche que c'est l'Allemagne qui a décidé dans sa politique d'intégrer le plus de réfugiés par rapport à d'autres pays européens. Quel regard avez-vous sur la politique d'accueil ou de non-accueil ? Puisqu'il y a des pays européens qui refusent d'accueillir des réfugiés en ce moment même. Que pensez-vous de cette politique ?
En fait, je pense que les réfugiés, le problème des réfugiés, c'est un carte de jeu. On dit ça en arabe, je ne sais pas comment dire en français, mais carte entre les pays, entre Turquie et Allemagne.
Une carte à jouer.
Oui, carte à jouer, c'est ça.
Il n'existe pas en tant que personne, mais comme une donnée d'échange.
Oui, c'est la Turquie n'entre pas dans le Schengen. On va laisser les terroristes entrer en Europe. C'est des gens, des humains.
C'est la négation pour vous de la prise en considération des êtres humains que sont ces personnes qui essayent de fuir en Europe.
C'est des gens qui essaient de vivre. C'est d'être humain, c'est des humains qui avec des enfants qui veulent vivre, qui veulent choisir une nouvelle vie pour les enfants, parce que les enfants en Syrie sont tués chaque jour, sont torturés, sont kidnappés. Oui, c'est la réalité, c'est la réalité.
Entre les réfugiés qui viennent en Europe pour fait de guerre et les immigrés économiques, faites-vous une différence tous les deux ?
Oui. Oui, bien sûr. Oui, je crois, oui. Il y a des gens qui viennent juste pour trouver une nouvelle vie, Alors c'est oui, je crois qu'il y, a, il y avait beaucoup de gens qui sont venus ici juste pour travailler mieux, pour vivre mieux. Oui, oui, je crois qu'il y a, il y a une différence entre les, ces gens de réfugiés et les réfugiés qui sont venus ici juste pour parce que c'est impossible maintenant de vivre en, en Syrie.
Vous voulez dire qu'il y a des réfugiés qui viennent parce que c'est leur seule possibilité de continuer à vivre et d'autres qui viennent parce qu'ils veulent avoir une autre vie,
une nouvelle vie. Oui, une nouvelle vie. Oui, les deux sont la chance, ils ont le droit de vivre cette vie.
Et vous, Ekram?
Moi, je pense que oui, il y a des différences entre les deux. Mais je pense aussi que si des gens ils quittent leur pays avec toutes ces difficultés, ils ne viennent pas pour s'amuser quoi ici. Ça, c'est sûr, certain. Alors, des gens qui ont une belle vie là-bas, je sais pas, dans leur pays, ils restent. Ils ont toujours leur vie. Ils ont toujours leur pouvoir, leur argent. Alors, s'ils viennent, ça veut dire qu'ils ont des problèmes.
Voilà. Nous allons écouter la voix de Jacques Derrida, qui avait publié un livre il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, très important, sur l'hospitalité.
Dans l'hospitalité pure, d'une certaine manière, on ne demande même pas son nom à celui qui arrive, à l'arrivant, pas, ou qui s'est égaré sur sa route, ou qui, bon, dans une culture nomade où l'hospitalité est née, en quelque sorte, l'arrivant est reçu avant même qu'on sache quoi que ce soit de lui. On ne sait pas son nom. Eh bien, tous les problèmes dont nous parlons concernent aussi des gens qui, d'une certaine manière, n'ont pas de nom. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand un écrivain, un intellectuel de renom est persécuté, il a plus de chances. Quelquefois, ses chances sont limitées, on le sait bien, malheureusement. Mais il a plus de chances que tous les anonymes. On pourrait parler de l'Algérie, où il y a des dizaines de milliers d'anonymes qui sont obligés ou bien de fuir ou de mourir sur place, sans que jamais leur nom soit même prononcé. Donc la question est celle de l'anonymat, justement. Comment recevoir ou se préparer à recevoir des anonymes? Là, il n'y a pas de réponse programmable. C'est là que la chance, l'improvisation, il faut inventer l'événement à chaque instant et ne pas se régler sur le nom ou sur le renom.
Frédéric Salin, pour faire écho à ce que vient de dire, à ce que venait de dire Jacques Derrida il y a longtemps, on peut dire que vous avez inventé l'événement avec certains de vos camarades. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant à Normale Sup au département de sciences sociales. Vous êtes agrégé depuis l'année dernière. Dites donc, vous avez été un agrégé très jeune. Et vous avez, avec un groupe d'étudiants et le soutien de l'administration de Normale Sup à Paris, vous avez monté le programme étudiants invités en début d'année. Le RESOM, c'est-à-dire le réseau d'études supérieures et d'orientation des migrants et des exilés, avec des élèves et des professeurs de la FEMIS, de l'ENS, pas seulement à Paris, mais aussi à Lyon, et aussi dans d'autres universités parisiennes et dans la banlieue parisienne. Mais en fait, dès que vous avez commencé à voir des réfugiés arriver, certains d'entre vous ont publié des tribunes libres dans Libération, dans des journaux pour... Vous vous êtes interrogé en tant qu'étudiant pour vous dire, si j'ai bien compris, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Comment s'est passé l'éveil et puis ensuite, la concrétisation de l'accueil et de l'aide?
Alors l'éveil, il s'est passé très simplement. Il a commencé en fait au début du mois de juin 2015, quand des campements de migrants, de migrantes établis dans les rues parisiennes ont été très violemment évacués par la police, par la préfecture de Paris. C'est à partir de ce moment-là que s'est formé un collectif de citoyens, de citoyennes, de voisins, de voisines qui, tout l'été durant, a essayé de jouer le rôle de soutien aux personnes qui étaient ainsi pourchassées dans les rues, parce que c'était vraiment en fait une fuite dans différents campements ou avec un scénario qui se répétait, une farce de la police arrivant, expulsant les cars qui emmenaient les personnes vivant dans la rue, dans des centres sans aucun suivi. C'est à partir de là, en fait, qu'on a commencé à s'organiser avec différentes associations, avec des associations qui existent depuis longtemps, avec des personnes un peu de tous bords, et notamment, donc, avec des étudiants et des étudiantes de l'ENS. Et à partir de cette expérience qui nous a formés politiquement, hein, qui nous a appris beaucoup sur qu'est-ce que l'accueil des migrantes exilées à Paris, nous avons décidé de proposer à l'administration, en septembre, sur l'idée d'une personne Omar, d'une personne rencontrée aussi sur ces campements, de leur proposer donc un programme d'accueil, d'invitation plutôt, c'est le terme qu'on utilise, pour utiliser la ressource qu'était l'ENS.
Alors c'est très difficile de rentrer à Normalsup,
oui.
C'est même le concours le plus difficile de toute l'université française, mais justement, vous n'avez pas fait passer de concours pour ces étudiants réfugiés. Vous avez inventé un système d'enseignement entre étudiants.
Voilà, alors il y a plusieurs choses hein, qui ont été mises en place dans le cadre du programme étudiants invités. Il y a les cours de français. Donc, ce sont des étudiants, des étudiantes de l'ENS qui font bénévolement ce travail remarquable, le font vraiment très bien, qui s'organisent, qui, pour la plupart, en fait, ont bénéficié d'une expérience d'enseignement du français langue étrangère lors d'une année de lectorat à l'étranger. Il y a un système de binôme et de tutorat. Donc, pour chaque personne qui vient dans le programme étudiant invité, il y a une étudiante, un étudiant de l'ENS qui est là pour lui montrer un peu comment utiliser les ordinateurs, lui montrer la bibliothèque, comment utiliser les installations sportives, voilà, répondre à tout un tas de questions.
Avoir une carte de cantine, ce qui peut être important dans la vie quotidienne, n'est-ce pas, Ekram ?
Oui, c'est vrai. C'est chouette.
Quelle expérience retirez-vous ? Est-ce que vous en tirez non seulement un approfondissement de cette langue française que vous avez décidé d'apprendre, mais aussi une sorte de réconfort et de croyance en l'avenir ?
J'ai appris la langue et c'est mon avenir en fait. Si je parle, ça veut dire que je peux faire tout ce que je peux faire pour mon avenir. Je peux avancer avec la langue. Si je parle pas, je peux pas avancer.
Et c'est quoi l'avenir pour vous ?
L'avenir de d'une vie normale en fait, d'une vie normale d'un travail, c'est pas que pour moi, pour les autres aussi, et puis de faire mes études, de continuer mes études, de lire, de dessiner, tout ça.
Et vous, Nina, c'est quoi l'avenir pour vous ?
L'avenir pour moi, c'est aussi une vie normale, mes enfants qui vont vivre aussi une vie normale.
Vous occupez de combien d'enfants ?
10 enfants. Et mais je voudrais dire quelque chose aussi sur le PEI. C'est pas que la langue. En fait, c'est ça nous aide.
Donc les PEI, c'est le programme que proposent oui. les étudiants de Normalsup.
Oui, c'est pas avec que la langue. C'est aussi de mon travail. J'ai trouvé l'aide de contacter les associations, de contacter les gens qui veulent participer avec notre projet. Et c'est aussi l'accès aux bibliothèques. Ça, c'est une très, très grande chose. C'est une chose importante, vraiment, pour nous.
Conclusion, Frédéric Salin.
Non, c'est ça, c'est que... Comment on
c'est un lieu de vie, en fait,
oui,
que vous proposez.
Un lieu de vie, un lieu de soutien, parce que toutes les personnes qu'on croise ne sont pas seulement des personnes qui sont ballottées par différentes politiques migratoires, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont des projets, qui affirment des choses, qui ont des opinions, qui produisent de la connaissance, qui produisent des analyses, qui produisent des discours, vous avez vu, qui sont impliqués dans des associations.
Vous apprenez beaucoup.
Énormément. Et on a envie de faire des choses ensemble. Et c'est ça aussi qui nous anime, en fait. C'est quelque chose qui est toujours en expansion et on veut nourrir cette expansion ensemble. Alors, peut-être, je sais qu'il y a eu des expériences et des initiatives similaires, notamment menées par des gens comme Gérard Noiriel dans les années, dans les années 80. En tout cas, oui, nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les personnes qui, dans leur université, dans tout établissement d'enseignement supérieur, dans leur lycée même, qui ont la volonté de s'organiser avec des professeurs, d'autres étudiants, pour monter des associations de français, pour monter des programmes de reprise d'études. On veut aider ces personnes-là, avec le Rhizome, à poursuivre leur initiative et à leur donner des conseils, à leur donner des motivations, réfléchir ensemble sur les moyens d'améliorer l'accès aux études supérieures pour toutes les personnes migrantes et exilées qui souhaitent reprendre leurs études et apprendre le français, parce que c'est quelque chose vraiment de
important.
Très important, de fondamental, et qui est un préalable à l'intégration. Nous ne croyons pas à l'intégration qui émane d'une volonté individuelle. Et nous affirmons que l'intégration, c'est quelque chose qui doit venir des institutions, qui doit venir des associations. Parce que l'État ne fait pas cette activité. Et ça, nous en avons bien conscience.
Alors, si on veut, en tant que bénévole, poursuivre et continuer ce que vous faites, oui, qu'est-ce qu'on fait, Frédéric Salin ?
Ben, vous pouvez nous envoyer un mail contact@rhizome.org.
Dernière question, elle s'adresse à Ekram et à Ninar. Souhaitez-vous rester en France, Ekram ?
Bien sûr, oui. Je souhaite rester en France. Je veux faire ma vie, tout ça, oui. J'ai envie de faire, continuer de faire mes études, oui. J'ai envie de rester en France, oui.
Et vous, Nina ?
Oui, moi aussi, oui. Oui, j'aimerais rester. J'aime la France, je suis ici, je suis en plein secure. J'aime faire des enfants ici, avoir mes enfants ici, étudier ici, oui, oui. Oui, je voudrais rester en France, bien sûr.
Ben, merci beaucoup.
Merci
à vous tous.
Et merci à vous.
Chaque semaine, on se quitte en musique. Nous avons choisi Mia, Borders. Je crois que vous connaissez, Frédéric.
Oui, oui, oui. C'est Mia qui chante, du coup, devant des personnes qui grimpent des barbelés. Mais c'est une chanson qui a pas mal tourné.
Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new rhythm. Rhythm the key them to life. Let's beat them. Rhythm smartphones, don't beat them.
En tout cas, merci beaucoup. Merci à Ninar Omran. Merci à Ekram Kaderi. Et merci à Frédéric Salin. Et bravo pour ce magnifique projet. Ce n'est qu'un début.
Merci à vous.
Merci à Henri Bérec, Michel Billoux, Léa Dupouy-Henquin, Jean-Baptiste Audibert. Vous écoutez France Inter et après le prochain flash de la rédaction, vous avez rendez-vous comme chaque samedi avec Denis Chessou pour CO2, mon amour.